première partie de l'émission avec un polar un peu baroque, un peu barré. Et le roman dont on va parler maintenant est tout aussi barré, voire plus, mais c'est plutôt loufoque. C'est un roman de Benoît Philippon qui s'appelle Mamie Luger, qui est paru dans la collection Equinox des éditions Les Arènes. Une toute nouvelle collection qui est dirigée par Aurélien Masson, qui était l'ancien directeur de la série Noire, où d'ailleurs Benoît Philippon avait publié son premier roman, Cabossé.
Excellent roman aussi.
Exactement. Alors là, nous sommes en Auvergne. L'inspecteur Ventura vient arrêter Berthe Gavignol pour avoir tiré à la 22 sur son voisin notaire. Des coups de pétoir, proteste-t-elle. Le Félix lui signifie sa garde à vue. Une garde à vue tout à fait spéciale, car Berthe est centenaire. Elle est née en 1914. L'inspecteur Ventura, André de son prénom et Palino, ne se doute pas à quel point son interrogatoire va être long et surprenant. Pour tout dire, hors du commun. Car la mémé Gavignol n'a pas sa langue dans sa poche, elle sait très bien ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait. Et elle va le raconter aux flics pendant 450 pages. Elle va raconter aux flics ses déboires, ses maris, ses amants, ses ennemis. Et en 102 ans, des maris, des amants et des ennemis, on a le temps de s'en faire. Certains même, chez mémé Gavignol, rentrent d'ailleurs tour à tour dans les trois catégories.
Pourquoi plus un pied dans la tombe, je suppose.
Tout à fait. Pourquoi le titre du roman, Mamie Luger? Eh bien, parce que c'est avec cette arme qu'elle tue son premier mec, un soldat SS qui tentait de la violer.
Donc, c'était pas vraiment son premier mec. On peut pas accepter ça comme ça.
Non,
elle tue la première personne qu'elle va tuer.
Exactement.
Donc, elle va en tuer d'autres.
Et ce Luger va lui servir de nombreuses fois, car il faut bien dire que la mamie a son caractère et un sens tout particulier de la légitime défense. Mais elle a surtout, et là c'est tout à son honneur, un sens aigu du droit des femmes. Le deuxième sexe de Simone Beauvoir, qu'elle découvre au cours du roman, sera pour elle une révélation, pratiquement une bible citoyenne pour elle. Pour elle, pour Mamie Luger, quand c'est non, c'est non. Et il est vrai que certains hommes n'entendent pas toujours le nom comme tel. On sent que Benoît Philippon s'est bien amusé à écrire ce livre, et nous on s'amuse beaucoup à le lire. Il a un sens aiguisé des dialogues, que cela soit entre le flic et la mamie qu'il tente d'interroger en respectant le protocole. « De quel proctologue tu me parles ?» lui dit-elle. Les dialogues sont réussis, mais le récit de la vie, des aventures de la mamie, qui n'a pas toujours été vieille, qui a longtemps été très désirable, est passionnant. En plus, on parcourt tout un siècle en Auvergne avec l'évolution des mœurs. Les notables, petits ou grands, qui eux n'évoluent guère. Quand on va à la grande ville, non plus. L'esprit boutiquier est bien présent de 1914 à nos jours. Le racisme, les chasseurs, les bas du front, ce sont les mêmes d'ailleurs, sont aussi, hélas, des engeances qui n'évoluent guère. Le personnage du flic est aussi fort réussi. Il passe de la perplexité à l'agacement en interrogeant cette vieille mamie, puis à la tendresse de petit-fils, car sous ses airs de franche déconnade, le livre, c'est que la vie de la mémé, en fait, qui raconte, n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, loin s'en faut. J'oubliais de préciser, c'est important, qu'il y a un alambic et une recette de gnoll qui tient un rôle des plus importants dans le roman. Ce n'est pas Saga Mornounan, mais le roman a dû faire partie des lectures de l'auteur. Tout comme Arsenic et vieille dentelle doit être en très bonne place dans sa vidéothèque. Vous lirez pourquoi, je ne vais pas vous le révéler, bien évidemment. Ceci dit, on le sait très vite. Certains lecteurs penseront aussi, ça se ressemble à la mémé de Nadine Monfils.
Mémé Cornemuse.
Mémé Cornemuse, voilà. Mamie Luger, Mémé Cornemuse, ça ferait un joli duo. En fait, Benoît Philippon devient avec ce roman le maître, voire enfin plutôt l'instigateur d'un nouveau genre de roman noir, le polar à sketch. Alors, c'était le petit défaut de son premier roman, car le récit entre les scénettes manquait de liant. Alors que là, c'est la grande qualité de ce Mamie Luger. Toutes les aventures sont excellentes, tous les mœurs de la mamie Gavignol forment un tout, et l'histoire d'une vie en garde à vue, cette garde à vue qui se prolonge et se prolonge encore, en fait, cela donne à son histoire une entièreté, un vrai sens, presque une philosophie de vie. Faut pas m'emmerder, ni me manquer de respect.
Et puis, ne pas forcer les femmes, c'est plus qu'une philosophie de vie. Bah hein. Oui, on en parle beaucoup en ce moment. Mais
ça tombe.
C'est d'actualité depuis beaucoup plus d'un siècle, malheureusement.
Hélas. ce roman pourrait quasiment faire le scénario d'une série télé, que d'ailleurs Benoît Philippon, qui est aussi cinéaste, pourrait fort bien réaliser, ou du moins, en tous les cas, écrire le scénario. Car on sent d'ailleurs quelque part qu'il a déjà fait les repérages en lisant le roman.
Et peut-être le découpage.
Et peut-être même le découpage. Une collection, c'est pas les premiers romans qui paraissent, c'est le premier dont on parle, une collection donc Equinox, qui commence plutôt bien pour nous, on y reviendra certainement.
Dans d'autres émissions. Ben, le roman dont moi je vais vous parler maintenant a carrément un lien avec trois des romans qu'on a déjà parlé. D'abord, dans la première partie d'émission, je vous ai parlé de Zone, de Jean-Hugo Pelle. C'était une réédition, le livre dont je vais vous parler est aussi une réédition. Deuxième roman avec qui il a un lien, le roman de Jérôme Leroy, puisque c'est sous la houlette de Jérôme Leroy qui a une carte noire aux éditions de la Table Ronde, dans la très délicieuse collection de poches de la Petite Vermillon, que ce roman vient d'être édité, et Jérôme Leroy en est le directeur de collection. Cette carte noire consiste à remettre en valeur des textes oubliés, épuisés, ou tout de moins passés inaperçus à leur première sortie, et d'essayer de leur apporter une nouvelle audience. Et enfin, c'est un rapport avec le roman dont tu viens de parler, parce que comme vous allez le voir, c'est une longue, c'est un long interrogatoire, confession, que ce roman. Dans la série La Petite Vermillon, La Carte Noire à Jérôme Leroy, quatre paraissent au printemps, mais celui dont je vous ai sélectionné, c'est une curiosité. Ça s'appelle Sacrée Salade. C'est un roman de Jacques Laurent. Jacques Laurent, que vous connaissez peut-être d'ailleurs sous le nom de Cécile Saint-Laurent, entre autres les Caroline Chéri, vous savez, les 2000 rediffusions à la télé. Comme écrivain, d'ailleurs sous d'autres pseudos, il a un peu oublié Jacques Laurent, alors qu'il écrivit beaucoup de romans, et parmi ceux-ci, des romans noirs qui là sont carrément occultés. Il a eu des grands prix d'ailleurs lors des sorties de ses romans. Sacrée Salade, c'est une très belle évocation du milieu des années 50, un face-à-face entre une jeune femme, qu'on peut dire délurée, dont les aspirations et la vie s'opposent complètement à son interlocuteur, qui est donc un flic, puisque c'est un interrogatoire, l'inspecteur Fortin, conservateur, tendance, conviction fou quand même, hein. En gros, le ventre mou de la France d'alors. Le face-à-face se passe au Quai des Orfèvres. Mais qu'a donc commis, comme crime, cette jeune femme dont le nom est Claude-André Pénélope Racan, pour être interrogée longuement, très longuement, par cet inspecteur? Ben, elle est tout simplement soupçonnée d'avoir avorté. Et on rappelle qu'à l'époque, c'était un crime et que quelques années plus tôt, certains et certaines l'ont payé de leur vie. Forbin, on le voit tout de suite, lui, il tient aux aveux, c'est pas bénin. Ça en plus a un rapport avec d'autres histoires, d'autres personnes. Et ce faisant, mine de rien, il provoque petit à petit les confidences de la gamine qui lui raconte sa vie, ses amants, sa montée à Paris, ses déceptions. D'un ton faussement naïf d'ailleurs, elle semble ne pas comprendre que ses mœurs à elle, qui lui apparaissent toutes naturelles, apparaissent comme complètement dissolues pour le flic, garant de l'ordre. Et l'ordre, c'était aussi, et c'est toujours d'ailleurs, un ordre moral. Quelques années auparavant, la police française aidait les nazis à déporter non seulement les juifs, mais aussi les communistes et les homosexuels, je vous le rappelle. Comme le pense Forbin, nous sommes là pour appliquer les lois, quelles qu'elles soient. Surtout ne pas réfléchir, surtout ne pas changer, surtout continuer à obéir. Tiens, ça nous rappelle quelque chose de plus actuel, ça, mais bon. Cependant, au fur et à mesure de la journée d'interrogatoire, dans le roman, Forbin, père de famille, semble quand même se rapprocher de la jeune fille et commencer à comprendre ses aspirations, sa liberté de ton, sa liberté de vie. Mais tout ça, c'est peut-être qu'un simulacre. On pressent le dénouement très vite. Mais c'est pas cette intrigue qui constitue l'intérêt du bouquin. Sous la conversation de Bonaloi, dite protagoniste, la critique sociale est sévère. La jeune fille s'écrie à un moment donné « C'est drôle, la société a l'air de préférer ce qui est pâteux à ce qui est vivant. » Et l'inspecteur Forbin en face, il ne peut pas comprendre. Et quand il pense à sa fille, il fait le parallèle puisqu'il a une jeune fille qui est au lycée, c'est pour se souvenir qu'elle, je cite l'auteur, était du côté des hors-la-loi, plusieurs professeurs agrégés l'ayant convaincu des mauvaises intentions de la société capitaliste. En bref, des communistes, certainement. Ce roman a donc été écrit en 54. Ben, il va vous surprendre par sa modernité de ton et surtout nous montrera, s'il en était besoin, que l'évolution est lente, très très lente dans notre société, parce que il y a toujours des inspecteurs fort bas, des ultra-conservateurs, peut-être voire de plus en plus. Et puis il y a aussi des demoiselles racans. Certes, l'avortement est désormais autorisé, mais pour combien de temps? Et puis d'autres revendications semblent bien éloignées de la préoccupation justement de ces ultra-conservateurs. Voilà, donc je rappelle, avec une très belle couverture, très vive, une sacrée salade, Jacques Laurent de l'Académie française, s'il vous plaît. C'est dans la collection de poche de la Table Ronde, La Petite Vermillon. C'est une collection dirigée par Jérôme Leroy.
Enfin, non, pas la collection.
C'est la carte noire. Voilà. C'est quatre romans choisis spécialement par Jérôme Leroy, quatre romans noirs par an d'ailleurs. Voilà, donc ça sort au printemps, il y en a quatre qui sont sortis au printemps 2017, les quatre du printemps 2018 viennent de sortir. Un peu de musique peut-être.
Un petit peu de musique. Alors comme juste après on va aller dans les années 30, nous allons écouter un extrait du dernier disque de Guillaume de Chassy et de Christophe Marguet, qui sont de notre temps bien évidemment, mais le disque est consacré à Marlène Dietrich. Au saxophone, il y a Andy Shepard et le morceau s'appelle A Diner at Marlene's Place. Guillaume Chassy, Christophe Marguet. C'est quelques mesures de jazz. Le polar italien de l'émission. Il y en a souvent, donc. Et ce polar italien, c'est la nouvelle enquête du commissaire Riccardi.
Si je peux me permettre, le polar italien a le vent en poupe et il y a d'excellents auteurs qui nous arrivent trimestre après trimestre.
Tout à fait. Donc, les enquêtes du commissaire Riccardi sont écrites par Maurizio De Giovanni. Et ce roman s'appelle « Les Pâques du commissaire Riccardi ». Il est paru chez Rivage comme les précédents et traduit comme les précédents par Odile Rousseau. Donc après les quatre saisons qui formaient un premier cycle et le Noël du commissaire qui entamait un suivant, c'est donc les Pâques. L'enquête se déroule toujours à Naples au début des années 30, en 32 précisément, pendant la Semaine Sainte, et commence de façon peu orthodoxe, ni catholique d'ailleurs, dans un bordel. Un bordel de première classe, nous dit l'éditeur. Une maison dans laquelle on vient de retrouver morte Vipera. Vipera, c'est la prima donna des lieux, la plus chère, celle pour qui tout le monde venait, mais que peu ne pouvait se payer et peu ne pouvait vraiment approcher. Et du coup, la maison close va fermer, pendant quelques jours, au grand dam de la patronne et de ses clients. Quand je disais pas catholique, c'est une façon de parler, car tous les clients du lieu sont de bons catholiques, ou du moins ils le prétendent l'être. Comme le marchand de bondieuserie, cierges, images pieuses, statuettes en tout genre, qui est le dernier client de la morte et donc le principal suspect. Pardon. Le commissaire va devoir enquêter dans un milieu encore plus difficile que les précédents, car si beaucoup de monde fréquente ce lieu de plaisir ou de débauche, selon comment on voit les choses, peu ose l'avouer. Et la maîtresse de maison est peu encline à révéler le nom des messieurs qui viennent consommer dans son établissement. Riccardi sera aidé, comme toujours, par son adjoint, le sergent Maione, lui-même assisté par la belle Bambine. Bambine, c'est un travesti qui revient de plus en plus fréquemment dans les romans de Giovanni et qui permet d'avoir des informations dans les endroits où les flics ne peuvent pas aller. Il y aura aussi le médecin légiste, qui sera de la partie, bien entendu, et lui, sa détestation des fascistes au pouvoir lui vaudra bien des ennuis, car il n'aime pas fermer sa gueule par rapport à ces gens-là. Il sera aussi beaucoup question d'argent et de religion. Les deux vont bien ensemble, puisqu'ils permettent chacun d'asseoir un pouvoir. Et les fascistes, au pouvoir, justement, font parfois le lien entre les deux, l'argent et la religion. Riccardi, lui, souffre toujours de cette malédiction, qui fait un peu le sel de ses romans. Lui souffre... Cette malédiction, c'est qu'il entend les dernières pensées des morts. Alors, dans les enquêtes, évidemment, ou simplement au coin d'une rue, où un jeune homme a été renversé par une voiture et dont les derniers instants, les dernières pensées furent pour sa fiancée qui laissait seule. Les lecteurs de Giovanni retrouveront aussi avec plaisir les trois femmes du commissaire, le commissaire solitaire. Il y a Rosa, sa tante, qui l'a élevée, qui s'occupe de sa maison. Il y a la belle Enrica, sa voisine qui se meurt d'amour pour le beau commissaire, et il y a Livia, amie du Duce, riche, séduisante et séductrice, qui prend très mal de se voir refusée par le flic. Mais les romans de Giovanni ne seraient rien, évidemment, sans Naples. Sans Naples, sa ville. La ville du commissaire, la ville de l'auteur. Une ville dans laquelle, au fur et à mesure des romans d'ailleurs, la météo, le temps, semble s'adapter à l'humeur du commissaire, et non le contraire. Un commissaire qui n'aime pas le printemps, un commissaire qui n'aime pas manger, malgré les catavelli au ragoût que lui concocte Rosa, mais un commissaire que nous, on aime, un commissaire dont on reparlera sûrement, puisqu'il y a encore 6 épisodes, je viens de voir, qui ne sont pas encore traduits.
Donc on va passer encore quelques temps à Naples.
On va passer quelques temps à Naples, je pense qu'on va avancer dans le temps. Donc je répète, avant de finir, Maurizio De Giovanni, les Pâques du commissaire Riccardi, paru chez Rivage.
Et on va peut-être citer le traducteur.
Ben, c'est une traductrice, Odile Rousseau.
Voilà, et bien on arrive à la fin de cette émission. Donc, formule consacrée, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la prochaine émission.
Bonsoir.